Alexandre Dumas, Impression de voyage. Jean sans peur. Le 9 septembre 1419, sur la partie du pont qui traverse Lyon et sous l'inspection de deux hommes qui, assis de chaque côté du parapet, paraissaient apporter un égal intérêt à l'œuvre qui s'opérait devant eux. Des ouvriers protégés dans leur travail par quelques soldats qui empêchaient d'approcher le peuple, élevait en grande hâte une espèce de loge en charpente qui s'étendait sur toute la largeur du pont et sur une longueur de 20 pieds à peu près. Le plus vieux des deux personnages que nous avons représenté comme président à la construction de cette loge paraissait âgé de 48 ans à peu près. Sa tête brune, ombragée par de longs cheveux noirs taillés en rond, était couverte d'un chaperon d'étoffe de couleur sombre dont un des bouts flottait au vent comme l'extrémité d'une écharpe. Il était vêtu d'une robe de drap, pareille à celui de son chaperon, dont la doublure en menu vert paraissait au collet à l'extrémité inférieure et aux manches. De ses manches larges et tombantes sortaient deux bras robustes que protégeait un de ses durs vêtements de fer maillé qu'on appelait aubergeon. Ses jambes étaient couvertes de longues bottes dont l'extrémité supérieure disparaissait sous sa robe et dont l'extrémité inférieure, souillée de boue, attestait que la précipitation avec laquelle il s'était occupé de venir présider à l'exécution de cette loge ne lui avait pas permis de changer son costume de voyage. À sa ceinture de cuir pendait, à des cordons de soie, une longue bourse de velours noir, et à côté d'elle, en place d'épée ou de dague, à une chaîne de fer, une petite hache d'arme damasquinée d'or, dont la pointe opposée au tranchant figurait avec une vérité qui faisait honneur à l'ouvrier des mains duquel elle était sortie, une tête de faucon déchaperonnée. Quant à son compagnon, qui paraissait à peine âgé de 25 à 26 ans, c'était un beau jeune homme mis avec soin qui paraissait, au premier abord, incompatible avec la préoccupation sombre de son esprit. Sa tête, inclinée sur sa poitrine, était couverte d'une espèce de casquette de velours bleu, doublée d'hermine. Une agrafe de rubis y rassemblait sur le devant les tiges de plusieurs plumes de paon, dont le vent agitait l'autre extrémité comme une aigrette d'émeraude, de saphir et d'or. De son surtout de velours rouge, dont les manches pendaient, garnies d'hermine comme son chapeau, sortaient croisés sur sa poitrine, ses bras couverts d'une étoffe si brillante qu'elle semblait un tissu de fil d'or. Ce costume était complété par un pantalon bleu collant, sur la cuisse gauche, duquel étaient brodés un P et un G, surmontés d'un casque de chevalier et par des bottes de cuir noir doublées de peluche rouge, dont l'extrémité supérieure, en se rabattant, formait un retroussi auquel venait s'attacher par une chaîne d'or la pointe recourbée de la poulaine démesurée qu'on portait à cette époque. De son côté, le peuple regardait avec une grande curiosité les apprêts de l'entrevue qui devait avoir lieu le lendemain matin entre le dauphin Charles et le duc Jean. Et quoique le désir unanime fût pour la paix, les paroles qu'il murmurait étaient bien diverses, car il y avait dans tous les esprits plus de crainte que d'espoir. La dernière conférence qui avait eu lieu entre les chefs des partis dauphinois et bourguignons, malgré les promesses faites de part et d'autre, avaient eu des suites si désastreuses que l'on ne comptait plus que sur un miracle pour la réconciliation des deux princes. Cependant, quelques esprits mieux disposés que les autres croyaient ou paraissaient croire au succès de la négociation qui allait avoir lieu. « Par Dieu !» disaient les deux mains passées dans la ceinture qui encerclait la rotondité de son ventre au lieu de serrer le bas de sa taille, un gros homme à figure épanouie, bourgeonnant comme un rosier au mois de mai. « Par Dieu, c'est bien heureux que Monseigneur le Dauphin, que Dieu conserve et que Monseigneur de Bourgogne, que tous les saints protègent, ait choisi la ville de Montereau pour y venir jurer la paix. « Oui, n'est-ce pas, Tavernier ?» répondit en lui frappant du plat de la main sur le point culminant du ventre son voisin, moins enthousiaste que lui. « Oui, c'est fort heureux, car cela fera tomber quelques écus dans ton escarcelle et la grêle sur la ville. »« Pourquoi cela, Pierre ?» dirent plusieurs voix. « Pourquoi cela est-il arrivé au ponceau ? Pourquoi l'entrevue à peine finie, un si terrible ouragan, éclata-t-il dans un ciel où l'on ne voyait pas un nuage ? Pourquoi le tonnerre tomba-t-il sur l'un des deux arbres au pied desquels s'étaient embrassés le dauphin et le duc ? Pourquoi brisa-t-il cet arbre sans toucher l'autre, de telle manière que, quoiqu'ils partissent d'une même tige, l'un tomba foudroyé au pied de son frère, resté debout ? « Et tiens, » ajouta Pierre en étendant la main, « pourquoi en ce moment tombe-t-il de la neige, quoi que nous ne soyons qu'au 9 septembre ?» Chacun, à ces mots, leva la tête et vit effectivement flotter sur un ciel gris les premiers flocons de cette neige précoce qui devait, pendant la nuit suivante, couvrir comme un linceul toutes les terres de la Bourgogne. « Tu as raison, Pierre !» dit une voix. « C'est de mauvais augure, et cela annonce de terribles choses. »« Savez-vous ce que cela annonce ?» reprit Pierre. « C'est que Dieu se lasse à la fin des faux serments que font les hommes. »« Oui, oui, cela est vrai !» répondit la même voix. « Mais pourquoi n'est-ce pas sur ceux-là qui se parjurent que le tonnerre tombe plutôt que sur un pauvre arbre qui n'y peut rien. » Cette exclamation fit lever la tête au plus jeune des deux seigneurs, et dans ce mouvement, ses yeux se portèrent sur la loge en construction. Un des ouvriers établissait au milieu de cette loge la barrière qui devait, pour la sûreté de chacun, séparer les deux parties. Il paraît que cette mesure de précaution n'obtint pas l'approbation du noble assistant, car son visage pâle devint pourpre, et sortant de l'apathie apparente dans laquelle il était plongé, il bondit jusqu'à la loge et tomba au milieu des ouvriers avec un blasphème si sacrilège que le charpentier qui commençait à ajuster la barrière la laissa tomber et se signa. « Qui t'a ordonné de mettre cette barrière misérable ?» lui dit le chevalier. « Personne, monseigneur, » reprit l'ouvrier tremblant et courbé sous ses paroles. « Personne, mais c'est l'habitude. »« L'habitude est une sotte, entends-tu ? Envoie-moi ce morceau de bois à la rivière. » Et se retournant vers son compagnon plus âgé, « À quoi donc ? » dit-il. « Pensiez-vous, messire Taneguy, que vous le laissiez faire ?»« Mais j'étais comme vous, messire de Gillac, » répondit Duchâtel, si préoccupé à ce qu'il paraît de l'événement, que j'en oubliais les préparatifs. » Pendant ce temps, l'ouvrier, pour obéir à l'ordre du sire de Gillac, avait dressé la barrière contre le parapet du mur et se préparait à la faire passer par-dessus, lorsqu'une voix sortit de la foule qui regardait cette scène. C'était celle de Pierre. « C'est égal, » disait-il en s'adressant au charpentier. « Tu avais raison, André, et c'est ce seigneur qui a tort. »« Hein ?» dit de Gillac en se retournant. « Oui, monseigneur, » continua tranquillement Pierre en se croisant les bras. « Vous avez beau dire, une barrière, c'est la sûreté de chacun. C'est chose de bonne précaution lorsqu'une entrevue doit avoir lieu entre deux ennemis. Et cela se fait toujours. Oui, oui, toujours ! Crièrent tumultueusement les hommes qui l'entouraient. Et qui est donc es-tu ? Dit de Gillac, pour oser avoir un avis qui n'est pas le mien. Je suis, reprit froidement Pierre, un bourgeois de la commune de Montereau, libre de corps, et de bien, et ayant pris tout jeune l'habitude de dire tout haut mon avis sur chaque chose, sans m'inquiéter s'il choque l'opinion d'un plus puissant que moi. De Giac fit un geste pour porter la main à son épée. Taneguy l'arrêta par le bras. « Vous êtes insensé, messire, lui dit-il en haussant les épaules. « Archer, continua Taneguy, faites évacuer le pont, et si ces drôles font quelque résistance, je vous permets de vous souvenir que vous avez une arbalète à la main et des viretons plein votre trousse. » « c'est bien, messeigneurs, dit Pierre, qui, placé le dernier, avait l'air de soutenir la retraite. « C'est bien, on se retire, mais puisque je vous ai dit mon premier avis, il faut que je vous dise le second. C'est qu'il se prépare à cette place quelque bonne trahison. Dieu reçoive en grâce la victime et, en miséricorde, les meurtriers. » Pendant que les ordres donnés par Taneguy s'exécutaient, les charpentiers avaient abandonné la loge achevée et garnissaient de barrières fermées par de fortes portes les deux extrémités du pont, afin que les personnes seules qui étaient de la suite du dauphin et du duc pussent entrer. Ces personnes devaient être au nombre de 10 de chaque côté, et pour la sûreté personnelle de chacun des chefs, le reste des gens du duc devait occuper la rive gauche de la Seine et le château de Surville, et les partisans du Dauphin, la ville de Montereau et la rive droite de Lyonne. Quant à la langue de terre dont nous avons parlé et qui se trouve entre les deux rivières, c'était un terrain neutre, qui ne devait appartenir à personne. Et comme à cette époque, à l'exception d'un moulin isolé, qui s'élevait au bord de Lyonne, cette presqu'île était complètement inhabitée. On pouvait facilement s'assurer qu'on n'y avait préparé aucune surprise. Lorsque les ouvriers eurent achevé les barrières, deux troupes d'hommes armés, comme si elles n'avaient attendu que ce moment, s'avancèrent simultanément pour prendre leurs positions respectives. L'une de ces troupes, composé d'arbalétriers portant la croix rouge de Bourgogne sur l'épaule, vint commander par Jacques de la Lime, son grand maître, s'emparer du faubourg de Montereau et placer des sentinelles à l'extrémité du pont par laquelle devait arriver le duc Jean. L'autre, formé d'hommes d'armes dauphinois, se répandit dans la ville et vint mettre des gardes à la barrière par laquelle devait entrer le dauphin. Pendant ce temps, Taneguy et De Giac avaient continué leur entretien, mais dès qu'ils virent ces dispositions prises, ils se séparèrent. De Giac pour reprendre la route de Bray-sur-Seine, où l'attendait le duc de Bourgogne, et Taneguy du Châtel pour se rendre auprès du dauphin de France. La nuit fut horrible. Malgré la saison peu avancée, 6 pouces de neige couvrirent le sol. Tous les biens de la terre furent perdus. Le lendemain, 10 septembre, à 1 heure, après-midi, le duc monta à cheval dans la cour de la maison où il était logé. Il avait à sa droite le sire de Giac et à sa gauche le seigneur de Noailles. Son chien favori avait hurlé lamentablement toute la nuit. Et, voyant son maître prêt à partir, il s'élançait hors de la niche où il était attaché, les yeux ardents et le poil hérissé. Enfin, lorsque le duc se mit en marche, le chien fit un violent effort, rompit sa double chaîne de fer, et au moment où le cheval allait franchir le seuil de la porte, il se jeta à son poitrail et le mordit si cruellement que le cheval se cabra et faillit perdre les arçons à son cavalier. De Giac, impatient, voulut l'écarter avec un fouet qu'il portait, mais le chien ne tint aucun compte des coups qu'il recevait et se jeta de nouveau à la gorge du cheval du duc. Celui-ci, le croyant enragé, prit une petite hache d'arme qu'il portait à l'arçon de sa selle et lui fendit la tête. Le chien jeta un cri et alla en roulant expirer sur le seuil de la porte, comme pour en défendre encore le passage. Le duc, avec un soupir de regret, fit sauter son cheval par-dessus le corps du fidèle animal. 20 pas plus loin, un vieux juif qui était de sa maison et qui se mêlait de l'œuvre de magie sortit tout à coup de derrière un mur, arrêta le cheval du duc par la bride et lui dit « Monseigneur, au nom de Dieu, n'allez pas plus loin. » « Que me veux-tu, juif ? » dit le duc en s'arrêtant. « Monseigneur, reprit le juif, j'ai passé la nuit à consulter les astres et la science dit que, si vous allez à Montereau, vous n'en reviendrez pas. » Et il tenait le cheval au mort pour l'empêcher d'avancer. « Qu'en dis-tu ? » dit le duc en se retournant vers son jeune favori. « Je dis, répondit celui-ci, la rougeur de l'impatience au front, je dis que ce juif est un fou, qu'il faut traiter comme votre chien, si vous ne voulez pas que son contact immonde vous force à quelque pénitence de 8 jours. « Laisse-moi, juif, dit le duc pensif en lui faisant doucement signe de le laisser passer. « Arrête, juif !» s'écria de Gillac en heurtant le vieillard du poitrail de son cheval et en l'envoyant rouler à 10 pas. « Arrière ! N'entends-tu pas mon seigneur qui t'ordonne de lâcher la bride de son cheval ?» Le duc passa la main sur son front, comme pour en écarter un nuage, et jetant un dernier regard sur le juif étendu sans connaissance sur le revers de la route, il continua son chemin. 3 quarts d'heure après, le duc arriva au château de Montereau. Avant de descendre de cheval, il donna l'ordre à 200 hommes d'armes et à 100 archers de se loger dans le faubourg et de relever ceux qui, la veille, avaient reçu la garde de la tête du pont. En ce moment, Tanneguy vint vers le duc et lui dit que le dauphin l'attendait au lieu de l'entrevue depuis près d'une heure. Le duc répondit qu'on y allait. Au même instant, un de ses serviteurs tout effaré accourut et lui parla tout bas. Le duc se tourna vers Duchâtel. « Par le saint jour de Dieu, dit-il, chacun s'est donné le mot aujourd'hui pour nous entretenir de trahison. Duchâtel, êtes-vous bien sûr que notre personne ne court aucun risque? Car vous feriez bien mal de nous tromper. Mon très redouté seigneur, répondit Tanneguy, j'aimerais mieux être mort et damné que de faire trahison à vous ou à nul autre. N'ayez donc aucune crainte, car monseigneur le dauphin ne vous veut aucun mal. Eh bien, nous irons donc, dit le duc, nous fuyant à Dieu. Il leva les yeux au ciel. Et à vous, continua-t-il en fixant sur Tanneguy un de ses regards perçants qui n'appartenait qu'à lui. Tanneguy le soutint sans baisser la vue. Alors, celui-ci présenta au duc le parchemin sur lequel étaient inscrits les noms des 10 hommes d'armes qui devaient accompagner le dauphin. Ils étaient inscrits dans l'ordre suivant. Le vicomte de Narbonne, Pierre de Beauvau, Robert de Loire, Tanneguy du Châtel, Barbazan, Guillaume le Boutellier, Guy d'Avaugour, Olivier Layé, Varenne et Frottier. Tanneguy reçut en échange la liste du duc. Ceux qu'il avait appelés à l'honneur de le suivre étaient Monseigneur Charles de Bourbon, le seigneur de Noailles, Jean de Fribourg, le seigneur de Saint-Georges, le seigneur de Montaigu, Messire Antoine du Vergy, le seigneur d'Ancre, Messire Guy de Pontarlier, Messire Charles de Lens et Messire Pierre de Gillac. De plus, chacun devait amener avec lui son secrétaire. Note. Enguerrand de Montrelet, Sainte-Foy, Barente. Fin de note. Tanneguy emporta cette liste. Derrière lui, le duc se mit en route pour descendre du château au pont. Il était à pied, avait la tête couverte d'un chaperon de velours noir, portait pour arme défensive un simple aubergeon de maille et pour arme offensive une faible épée à riche ciselure et à poignée dorée. En arrivant à la barrière, Jacques de la Lime lui dit qu'il avait vu beaucoup de gens armés entrer dans une maison de la ville qui touchait à l'autre extrémité du pont, et qu'en l'apercevant, lorsqu'il avait pris poste avec sa troupe, ces gens s'étaient hâtés de fermer les fenêtres de cette maison. « Allez voir si cela est vrai, de Gillac, » dit le duc, « je vous attendrai ici. » De Gillac prit le chemin du pont, traversa les barrières, passa au milieu de la loge en charpente, arriva à la maison désignée et en ouvrit la porte. Tanneguy y donnait des instructions à une vingtaine de soldats armés de toutes pièces. « Eh bien, » dit Tanneguy en l'apercevant, « êtes-vous prêt ?» répondit De Gillac. « Oui, maintenant il peut venir. » De Gillac retourna vers le duc. « Le grand maître a mal vu, monseigneur, » dit-il. « Il n'y a personne dans cette maison. » Le duc se mit en marche. Il dépassa la première barrière, qui se referma aussitôt derrière lui. Cela lui donna quelques soupçons, mais comme il vit devant lui Tanneguy et le sire de Beauvau qui étaient venus à sa rencontre, il ne voulut pas reculer. Il prêta son serment d'une voix ferme, et montrant au sire de Beauvau sa légère cotte de maille et sa faible épée. « Vous voyez, monsieur, comme je viens. D'ailleurs, » continua-t-il en se tournant vers Duchâtel et en lui frappant sur l'épaule, « voici en qui je me fie. » Note. Enguerrand de Montrelet. Fin de note. Le jeune dauphin était déjà dans la loge en charpente au milieu du pont. Il portait une robe de velours bleu, garnie de martre, un bonnet dont la forme était entourée d'une petite couronne de fleurs de lys d'or. La visière et les rebords étaient de fourrure pareille à celle de la robe. En apercevant le prince, les doutes du duc de Bourgogne s'évanouirent. Il marcha droit à lui, entra sous la tente, remarqua que, contre tous les usages, il n'y avait point de barrière au milieu pour séparer les deux parties. Mais sans doute, il crut que c'était un oubli, car il n'en fit pas même l'observation. Quand les 10 seigneurs qui l'accompagnaient furent entrés à sa suite, on ferma les deux barrières. À peine s'il y avait dans cette étroite tente un espace suffisant pour que les 24 personnes qui y étaient enfermées pussent y tenir, même debout. Bourguignons et Français étaient mêlés au point de se toucher. Le duc ôta son chaperon et mit le genou gauche en terre devant le dauphin. « Je suis venu à vos ordres, monseigneur, » dit-il, « quoique quelques-uns m'aient assuré que cette entrevue n'avait été demandée par vous qu'à l'effet de me faire des reproches. J'espère que cela n'est pas, monseigneur, ne les ayant pas mérités. » Le dauphin croisa ses deux bras, sans l'embrasser ni le relever, comme il avait fait à la première entrevue. « Vous vous êtes trompé, monsieur le duc, » répondit-il d'une voix sévère. « Oui, nous avons de graves reproches à vous faire, car vous avez mal tenu la promesse que vous nous aviez engagée. Vous m'avez laissé prendre ma ville de Pontoise, qui est la clé de Paris, et au lieu de vous jeter dans la capitale pour la défendre ou y mourir, comme vous le deviez en sujet loyal, vous avez fui à Troyes. » « Fui, monseigneur ?» dit le duc en tressaillant de tout son corps à cette expression outrageante. « Oui, fui !» répéta le dauphin, appuyant sur le mot. « Vous avez... » Le duc se releva, ne croyant pas, sans doute, devoir en entendre davantage. Et comme dans l'humble posture qu'il avait prise, une de ses ciselures de la poignée de son épée s'était accrochée à une maille de son aubergeon, il voulut lui faire reprendre sa position verticale. Le dauphin recula d'un pas, ne sachant pas quelle était l'intention du duc en touchant son épée. « Ah ! Vous portez la main à votre épée, en présence de votre maître !» s'écria Robert de Loire en se jetant entre le duc et le dauphin. Le duc voulut parler. Tanneguy se baissa, ramassa derrière la tapisserie la hache qui la veille était pendue à sa ceinture, puis, se redressant de toute sa hauteur, Il est temps, dit-il en levant son arme sur la tête du duc. Le duc vit le coup qui le menaçait. Il voulut le parer de la main gauche, tandis qu'il portait la droite à la garde de son épée. Mais il n'eut pas même le temps de la tirer. La hache de Tanneguy tomba, abattant la main gauche du duc, et du même coup, lui fendant la tête depuis la pommette de la joue jusqu'au bas du menton. Le duc resta encore un instant debout, comme un chêne qui ne peut tomber. Mais alors Robert de Loire lui plongea son poignard dans la gorge et l'y laissa. Le duc jeta un cri, étendit les bras et alla tomber aux pieds de Gillac. Il y eut alors une grande clameur et une affreuse mêlée, car dans cette tente où deux hommes auraient eu à peine la place pour se battre, 20 hommes se ruèrent les uns sur les autres. Un moment, on ne put distinguer au-dessus de toutes ces têtes que des mains, des haches et des épées. Les Français criaient « Tue, tue, à mort !» Les Bourguignons criaient « Trahison, trahison, à l'arme !» Les étincelles jaillissaient des armes qui se rencontraient. Le sang s'élançait des blessures. Le dauphin, épouvanté, s'était jeté le haut du corps en dehors de la barrière. À ses cris, le président Louvet arriva, le prit par-dessous les épaules, le tira dehors et l'entraîna presque évanoui vers la ville. Sa robe de velours bleu était toute ruisselante du sang du duc de Bourgogne qui avait rejailli jusque sur lui. Cependant, le sire de Montaigu, qui était au duc, était parvenu à escalader la barrière et criait « À l'arme !» De Noailles allait la franchir aussi lorsque Narbonne lui fendit le derrière de la tête. Il tomba hors de la tente et expira presque aussitôt. Le seigneur de Saint-Georges était profondément blessé au côté droit d'un coup de pointe de hache. Le seigneur d'Ancre avait la main fendue. Cependant, le combat et les cris continuaient dans la tente. On marchait sur le duc mourant, que nul ne songeait à secourir. Jusqu'alors, les Dauphinois, mieux armés, avaient le dessus. Mais au cri du seigneur de Montaigu, Antoine de Toulonjon, Simon Hautelimé, Sambutier et Jean d'Hermet accoururent, s'approchèrent de la loge, et tandis que trois d'entre eux dardaient leurs épées à ceux du dedans, le quatrième rompait la barrière. De leur côté, les hommes cachés dans la maison sortirent et arrivèrent en aide aux Dauphinois. Les Bourguignons, voyant que toute résistance était inutile, prirent la fuite par la barrière brisée. Les Dauphinois les poursuivirent et trois personnes seulement restèrent sous la tente vide et ensanglantée. C'était le duc de Bourgogne, étendu et mourant. C'était Pierre de Gillac, debout, les bras croisés et le regardant mourir. C'était enfin Olivier Layé qui, touché des souffrances de ce malheureux prince, soulevait son aubergeon pour l'achever par-dessous avec son épée. Mais de Gillac ne voulait pas voir abréger cette agonie dont chaque convulsion semblait lui appartenir. Et lorsqu'il reconnut l'intention d'Olivier, d'un violent coup de pied, il lui fit voler son épée des mains. Olivier, étonné, leva la tête. « Eh, sans Dieu !» lui dit en riant de Gillac. « Laissez donc ce pauvre prince mourir tranquille !» Puis, lorsque le duc eut rendu le dernier soupir, il lui mit la main sur le cœur pour s'assurer qu'il était bien mort. Et comme le reste l'inquiétait peu, il disparut sans que personne fît attention à lui. Cependant, les Dauphinois, après avoir poursuivi les Bourguignons jusqu'au pied du château, revinrent sur leurs pas. Ils trouvèrent le corps du duc étendu à la place où ils l'avaient laissé, et près de lui, le curé de Montereau, qui, les genoux dans le sang, lui disait les prières des morts. Les gens du dauphin voulurent lui arracher ce cadavre et le jeter à la rivière. Mais le prêtre leva son crucifix sur le duc et menaça de la colère du ciel quiconque oserait toucher ce pauvre corps dont l'âme était si violemment sortie. Alors Susmerel, bâtard de Tanneguy, lui détacha du pied un de ses éperons d'or, jurant de le porter désormais comme un ordre de chevalerie, et les valets du dauphin, suivant cet exemple, arrachèrent les bagues dont ses mains étaient couvertes, ainsi que la magnifique chaîne d'or qui pendait à son cou. Le prêtre resta là jusqu'à minuit. Puis, à 7 heures seulement, avec l'aide de 2 hommes, il porta le corps dans un moulin près du pont, le déposa sur une table et continua de prier près de lui jusqu'au lendemain matin. À 8 heures, le duc fut mis en terre, en l'église Notre-Dame, devant l'hôtel Saint-Louis. Il était revêtu de son pourpoint et de ses housseaux. Sa barrette était tirée sur son visage. Aucune cérémonie religieuse n'accompagna l'inhumation. Cependant, pour le repos de son âme, il fut dit 12 messes pendant les 3 jours suivants. Le lendemain, du jour de l'assassinat du duc de Bourgogne, des pêcheurs trouvèrent dans la Seine le corps de Madame de Gillac. Note, voyez les chroniques de France dans la revue des Deux Mondes. Fin de note. Fin de Jean sans peur dans Impressions de voyage d'Alexandre Dumas, tome 1.